Je passe maintenant à l'ordre du jour proprement dit, qui est le point rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. La parole est à Madame Kosik. Il s'agit, le conseil municipal prend acte. C'est un rapport. Madame Kosik.
Merci, Monsieur le maire. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes rappelait dans des travaux menés sur l'égalité femmes-hommes en politique que la parité, l'égalité, c'est avant tout un outil autant qu'une fin et qui vise le partage à égalité du pouvoir de représentation, de décision entre les femmes et les hommes. C'est une exigence de justice et de démocratie. La parité, l'égalité doit également permettre de se réinterroger sur les conditions de travail, sur le partage des tâches, sur les stéréotypes sexistes et sur l'ensemble des obstacles structurels qui empêchent les femmes d'exercer pleinement les fonctions à responsabilité pour lesquelles elles sont aussi compétentes que les hommes. Alors, Monsieur le maire, depuis 1999, on compte pas moins d'une vingtaine de lois et de décrets qui traitent directement ou indirectement de ce sujet. D'ailleurs, très récemment, le président de la République a annoncé un grand plan sur 5 ans, faisant d'ailleurs de ce sujet un des marqueurs de son quinquennat. Pour autant, il reste un travail important à réaliser et depuis 2016, les collectivités locales qui ont au moins 20 000 habitants doivent présenter un rapport sur la situation qui est à la fois interne mais également externe, puisqu'un plan d'action qui s'inscrit notamment dans le cadre de la lutte contre les discriminations d'une délégation d'ailleurs portée par Annie Hommel fait également partie de ce rapport. Alors ce rapport, vous l'avez eu. Le plan d'action vise d'abord à favoriser l'égalité dans l'évolution des compétences et les parcours professionnels, de sensibiliser l'ensemble des agents et tout particulièrement l'encadrement, puisque les postures de l'encadrement sont essentielles sur ces questions-là dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, de créer les conditions d'une conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle plus équilibrée et de lutter, je l'ai dit, contre les stéréotypes sexistes. Vous retrouverez donc dans ce rapport l'exemple d'actions internes qui ont été menées, en particulier à l'initiative de la Direction des ressources humaines, impliquant l'ensemble des services, des premiers résultats. Oui, nous avons une parfaite parité des cadres au sein de la Direction générale. Ça veut dire que l'égalité femmes-hommes existe, au niveau en tout cas du top management. Nous avons 22% des femmes qui occupent un poste de direction de pôle. Le taux de féminisation des agents de catégorie A est en augmentation. Les femmes représentent 58% des effectifs de la collectivité. Malgré tout, des disparités existent, persistent. Il y a bien sûr une répartition inégale au sein de certaines filières. 80% d'hommes au sein de la filière technique, 20% au sein des filières administratives. C'est vrai que la présence d'hommes, notamment dans certaines filières de l'éducation ou de l'animation, sont moins importantes et sont là aussi, seraient là aussi une marque de progrès parce qu'encore une fois, la parité, la diversité, c'est un progrès et ça apporte une valeur ajoutée. Bien sûr, des temps partiels qui touchent plus les femmes que les hommes et un élément qu'on regarde toujours quand on regarde un peu les ressources humaines, les congés pour enfants malades sont pris majoritairement par les femmes. Vous retrouverez aussi un état des lieux sociologiques de ce qui se passe sur Metz et puis des actions externes qui sont menées à la fois dans nos politiques publiques d'éducation culturelle et sportive et les actions qui sont menées avec l'ensemble des acteurs associatifs et des institutions qui travaillent sur cette question-là. Voilà, la motion est en conséquence.
Alors, le rapport est en conséquence. Le rapport, ce n'est pas une motion. Alors, Monsieur Cazin.
Oui, merci. Merci. Donc, je voudrais dire qu'effectivement, la parité lors des élections, c'est une excellente chose. Ça permet d'avoir cette assemblée ici paritaire très différente de celle de Metz Métropole, où on a quand même une majorité d'hommes. Maintenant, il faut voir comment les choses se font aussi en variation. Quand on regarde la liste de Dominique Gros en 2008, il y avait 20 hommes, 20 femmes. Celle, 6 ans après aussi, 20 hommes, 20 femmes. Et il y a eu 16 renouvellements. 16. 3 hommes, 13 femmes. Les femmes, on leur a dit, ben voilà, c'est vous, il faut renouveler, il faut aller vers d'autres partis politiques, enfin, il faut ouvrir à d'autres partis politiques. Et celles qui se sont sacrifiées, ce sont les femmes. Il y a 13 femmes qui étaient dans le premier mandat. Si je peux vous donner les noms. 13 femmes qui étaient dans la première équipe de Dominique Gros qui n'y sont plus, et seuls 3 hommes sont rentrés. Alors, est-ce que la prochaine fois, il ne faudrait pas que vous rectifiez ça si vous repartez ensemble ? À savoir, la prochaine fois, rectifiez, faites sortir des hommes et faites sortir des hommes et laissez les femmes qu'elles aient le temps d'aller plus loin. D'autant plus que vos conseillers hommes, ça leur fera leur 3e mandat. Ça commence à faire beaucoup. Donc, trois mandats exécutifs, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est bien beau d'exposer des grands principes sur la parité en politique. Encore faut-il donner aux femmes le temps d'apprendre et puis de continuer. Ça ne se fait pas sur un seul mandat. Là, sur 20 femmes, il y en a 13 qui n'ont pas fait de 2e mandat. Je le dis, c'est la réalité des chiffres. On peut regarder les chiffres.
Merci. Madame Grollet.
Oui, monsieur le maire, ce rendez-vous donc, qui devient annuel ne doit pas être de pure forme. Mais retracer une évolution concrète sur la situation des femmes. Alors, quel est le bilan attendu que donc on est censé parler de l'action, des actions, des évolutions sur une année et qu'on constate que la partie bilan fait souvent état d'évolutions sur plusieurs années. Et il nous vaudrait mieux, me semble-t-il, quelques pages qui ont vraiment du sens et qui transcrivent des réalités. Alors, faut-il se réjouir que les femmes soient de plus en plus nombreuses à travailler pour la ville de Metz ? Pas forcément, si cela rime avec la précarité. Parce que je souligne là une réalité, hein, c'est que les femmes occupent 86% des postes en CDD à temps non complet, plus 8% en un an, dont une part importante d'emplois très précaires, notamment autour des écoles, qui ne permettent pas de se construire, mais juste de survivre. C'est aussi pour cela que nous avons critiqué les décisions prises de recourir à des prestataires extérieurs pour certains marchés, comme l'entretien des écoles, parce qu'on sait que ce choix aboutit à fragiliser d'abord les femmes. Pour agir efficacement, il faut se garder de noyer les vraies difficultés au milieu de faux problèmes. Ainsi, le fait que les femmes soient surreprésentées dans certains métiers et les hommes dans d'autres, la belle affaire, il me semble qu'il n'y a pas franchement matière à scandale. On a des causes plus urgentes à promouvoir que de dégenrer les secteurs, par exemple, de la petite enfance ou les postes techniques. L'essentiel, c'est évidemment qu'aucun homme, aucune femme ne soit empêché d'accéder au métier qu'il souhaite mener. Ça n'est pas le cas, je pense, dans notre pays. Peut-être se tourner vers d'autres pays où c'est plus difficile dans la situation des femmes. Et c'est surtout, chez nous, une question de volonté individuelle. Il ne s'agit pas de contrarier, bien sûr. Si les postes de direction sont encore inégalement répartis, mais je constate en revanche avec satisfaction que l'écart entre les salaires devient insignifiant dans notre collectivité et en baisse même. Cela dit, disparité ne veut pas forcément dire inégalité. Que les femmes soient très majoritaires en temps partiel, 29% contre 1,7% pour les hommes, prennent plus de congés pour enfants malades, 81%. Cela correspond tout simplement à la réalité de notre société et aussi aux réalités naturelles selon lesquelles les femmes font 100% des maternités et donc des congés maternité. Elles sont mères, ça c'est la nature qui le veut, et d'ailleurs elle a de plus en plus de mères isolées et donc uniques responsables de l'enfant. Et là, évidemment, il faut aider ces familles monoparentales. Il importe, et j'ai vérifié que c'est donc une priorité du plan d'action municipal, de créer les conditions d'une conciliation entre la vie familiale et professionnelle. Il faudrait aussi reconnaître davantage l'importance de la présence auprès des enfants. Ça, c'est un problème au plan national. Enfin, la lutte contre les violences et le harcèlement, c'est toujours d'actualité, malheureusement. Ça se traduit dans des aides à des structures d'accueil, le raid de la Saharienne. Il y a beaucoup de choses plus ou moins urgentes à faire. Mais je crains toujours qu'on tombe dans l'idéologie quand on met en place des formations, par exemple, pour déconstruire les stéréotypes de genre.
Merci, madame.
J'ai terminé.
Merci.
L'écriture inclusive dans ce rapport, et ça, c'est une bonne nouvelle. Je termine en soulignant qu'il y a un domaine où les médecins et les médecins sont à peu près à égalité, mais ça n'est pas pour la bonne cause. C'est le chômage des jeunes. Et à l'autre bout de la vie,
merci, madame.
Les personnes âgées dans une grande précarité, 1141 allocataires du minimum vieillesse.
Merci, voilà, madame Singer.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, comme vient effectivement de le déclarer madame Kosik, le 25 novembre dernier, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le président de la République a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. Il a notamment détaillé trois axes importants que sont l'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité, un meilleur accompagnement des victimes et un renforcement de l'arsenal répressif. Il conforte ainsi évidemment le chemin emprunté avec la loi du 4 août 2014 qui s'articulait autour de cinq priorités, et notamment les nouveaux moyens pour l'égalité professionnelle, une garantie publique contre les impayés de pensions alimentaires, la lutte contre les violences faites aux femmes, le recul des stéréotypes sexistes et la généralisation de la parité. Ce sont effectivement des priorités fortes pour améliorer l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans toutes ses dimensions. Cette première loi cadre était donc indispensable et sa mise en œuvre concrète a constitué un formidable levier pour améliorer le quotidien des femmes et changer les mentalités. Ainsi, en 2017, selon l'étude annuelle du Forum économique mondial sur la parité de genre, la France a gagné 6 places par rapport à 2016 et se classe actuellement 11e à l'échelle mondiale de ce classement qui évalue la parité entre les hommes et les femmes dans 144 pays sur les domaines de l'économie, de l'éducation, de la santé et de la politique. Néanmoins, malgré cette amélioration, il reste le point noir du critère de la sphère économique pour lequel la France arrive en 74e position à cause d'une trop faible présence de femmes à des postes clés et d'une inégalité salariale à poste équivalent. Monsieur le maire, en prenant connaissance du rapport que vous nous présentez aujourd'hui, j'ai malheureusement constaté que vous participez activement à ce mauvais classement du pays. En effet, malgré les bonnes intentions affichées, il en ressort que votre gestion du personnel municipal ne respecte pas la loi du 4 août 2014. Si globalement, les femmes sont plus représentées que les hommes dans les effectifs municipaux de la ville de Metz, 86% d'entre elles occupent en 2016 un poste précaire au sein de la collectivité. Comme l'indique le document, il s'agit de contrats à durée déterminée, à temps partiel et sur des postes d'encadrement d'enfants dans les cantines ou d'entretien des locaux. Le plus inquiétant, monsieur le maire, c'est que ce taux est en augmentation de 8% par rapport à 2015. Et chez les cadres, c'est un peu la même chose. Si pour l'ensemble des agents de catégorie A, la proportion de femmes atteint 55% des effectifs, ces mêmes femmes ne représentent que 22% des cadres sur les postes de direction de pôle. Mais c'est sans doute sur les rémunérations et les promotions que les inégalités sont les plus flagrantes au sein de la ville de Metz. Vous comptabilisez notamment 73 hommes et 27 femmes parmi les 100 plus hautes rémunérations de la collectivité avec un écart salarial de 3% à ce poste équivalent. Cette disparité, nous la retrouvons aussi dans les avancements de carrière avec 64% d'hommes qui ont bénéficié de la promotion interne et seulement 26% de femmes en 2016. Sur les avancées de grade, la situation est encore plus préoccupante. Alors évidemment, visiblement, ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Monsieur le maire, devant d'aussi mauvais chiffres, vous
merci
comprendrez que je ne peux me réjouir de votre gestion municipale des ressources humaines, qui ne met pas au centre de ses préoccupations l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Je voudrais juste terminer, j'en ai vraiment pas très longtemps.
Merci,
aujourd'hui,
madame.
La ville de Metz, comme les autres collectivités, doivent montrer l'exemple et être irréprochables. Et c'est ce que nous vous demandons, monsieur le maire, ce soir.
Madame.
Je vous remercie.
Madame Nicolas.
Merci, monsieur le maire. La journée de la femme a vu le jour il y a plus d'un siècle. L'égalité homme-femme a été inscrite dans la Constitution il y a plus de 70 ans. Et pour garantir cette égalité, a été mise en place tout un arsenal législatif. Alors, bien entendu, il y a eu des avancées, le droit de vote, l'avortement, la contraception, une entrée massive des femmes dans la scolarité et, de fait, dans l'activité professionnelle. Pour autant, ces conquêtes demeurent inachevées, que ce soit dans la vie familiale, professionnelle ou politique. Les femmes rencontrent encore beaucoup d'obstacles dans la voie de l'égalité et la domination masculine perdure dans les mentalités. Le monde politique en est d'ailleurs le plus bel, j'oserais dire, le plus cruel exemple. Ce monde qui, par essence, devrait être un modèle sur le sujet, reste encore et toujours un haut lieu de cette résistance masculine, et ce, en dépit des lois. Pour exemple, monsieur le maire, je voudrais revenir sur l'attitude que vous aviez adoptée lors du dernier printemps des religions. Nathalie Collin-Osterley et moi-même, nous vous avions écrit pour demander de ne pas recevoir un intervenant qui tenait sur son blog des propos choquants et intolérables à l'encontre des femmes et des homosexuels. Non seulement, monsieur le maire, vous n'avez pas jugé nécessaire de nous répondre, ce qui aurait été, je pense que tout le monde en conviendra, la moindre des politesses, mais en plus, vous avez donné tribune à ce triste individu pour venir parler, ce qui manquait quand même pas d'ironie, de fraternité. Vous n'avez pas été le seul à ne pas répondre. La même demande adressée au préfet restait lettre morte. Quant aux autres intervenants, tous masculins, ils ne se sont tout simplement pas sentis concernés. Alors, avez-vous eu seulement conscience de la condescendance que vous avez, vous et les autres intervenants, affichée ce soir-là vis-à-vis des femmes et des homosexuels? À mon avis, je crains que non. Alors, vous voyez, monsieur le maire, nous pourrons continuer à faire tous les rapports en matière d'égalité hommes-femmes. On pourra continuer à célébrer la journée de la femme. On pourra continuer à vouloir imposer cette légalité par la contrainte des lois, tant que cette culture de la tolérance, voire d'une certaine connivence des hommes entre eux, perdurera, le combat pour l'égalité des femmes en France ne pourra être gagné. Les femmes ont besoin dans cette bataille, monsieur le maire, d'un allié de poids, ça n'a pas l'air de vous intéresser, à savoir les hommes et en particulier les hommes politiques qui se doivent d'être exemplaires en mettant en conformité leurs actes avec leurs paroles, et ce, sur ce point, la tâche reste encore abyssale. Enfin, je terminerai par là, moi je reste toujours assez surprise d'entendre certaines de mes collègues femmes s'extasier devant de tels rapports en mettant beaucoup de cœur pour nous démontrer le bien fondé de ceux-ci, un peu à l'instar de celles qui pensent naïvement que l'écriture inclusive serait la solution pour supprimer la prééminence du masculin sur le féminin. Je crois, comme l'a dit à juste titre Édouard Philippe, tout ça relève du féminisme de salon. Je vous remercie.
Non, je ne prends pas la parole. Monsieur, c'est Madame Nicolas qui s'est exprimée.
Oui, monsieur le maire, merci. André Malraux disait « On juge le degré d'une civilisation au respect que l'on doit à ses morts ». Je dirais que, pour ma part, je trouve qu'on mesure aussi le degré d'une civilisation au respect que l'on doit aux femmes. Longtemps, ça a été une grande attribution de notre caractère national. On a même un mot qui n'existe pas dans les autres pays, qui s'appelle la galanterie. C'est un respect. Je note aujourd'hui que nous avons été aussi le pays qui a mis plus de temps que la Turquie pour accorder le droit de vote aux femmes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une tendance, permettez-moi de le dire, générale, ça ne concerne pas que la ville de Metz, loin de là, qui est d'être régressif sur ce plan. Régressif sur un certain nombre de sujets. On doit à Simone Veil la loi sur l'avortement. On a mesuré des progrès sous l'influence intellectuelle de Simone de Beauvoir, il faut le dire, et de son livre Le deuxième sexe. Et évidemment qu'il y a aujourd'hui un statut de la femme incommensurablement plus grand qu'il ne l'était, ne serait-ce que même dans les années 50. Là où je vois un certain nombre d'éléments régressifs, c'est notamment lorsque l'on ne lutte pas assez, à mes yeux, contre la tendance aujourd'hui, pour certaines catégories de population, de ne plus considérer la femme non seulement comme l'égale de l'homme, mais comme celle à laquelle on doit le respect. Et je trouve que dans le rapport, il y a deux parties. Enfin, il y en a même trois, à vrai dire. Il y en a une qui concerne l'action au sein de la mairie. Là-dessus, je dirais, il y a pas grand-chose à ajouter. J'imagine que tout est fait dans ce sens. Et lorsque je regarde les cadres administratifs, je peux juger que la parité existe quasi autant qu'au sein de cette assemblée. Seulement, j'ajouterai deux choses. Il y a deux choses aujourd'hui qui paraissent devoir être plus fondamentalement appuyées. C'est l'écoute pour la violence faite aux femmes. Ça doit exister en mairie comme ça existe ailleurs. Et je trouve que là-dessus, une cellule d'écoute serait bienveillante, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires féminines qui auraient à se confier sans passer forcément par des voies administratives qu'elles peuvent juger jugeante, justement. Enfin, je trouve qu'il faudrait avoir un intervalle là avec un positionnement. Le deuxième effort, je crois, doit porter sur l'aide apportée à la garde des enfants, c'est-à-dire sur des crèches municipales, mais qui soient vraiment attribuées au personnel, avec des lieux bien identifiés pour cela, et non un pourcentage de places de crèche dans les crèches de la ville. Je crois qu'il faudrait aller dans ce sens-là. Ça serait des actions extrêmement concrètes. Enfin, je voudrais dire, parce que je vois le temps qui s'épuise, monsieur le maire, qu'il y a beaucoup à faire et que détourner l'attention de la cause féminine sur effectivement l'écriture inclusive ou la féminisation des professions neutres, de certaines, vous savez, on n'empêchera jamais un homme d'être une sage-femme, par exemple. Hein. Et puis, si un homme peut être une canaille, il peut être aussi une victime. Et Maurice Druon disait que même une éminence était, même un cardinal était une éminence. Donc, vous voyez, c'est bien neutre tout ça. Donc, monsieur le maire, j'ai vu un certain nombre d'affiches ou de textes administratifs qui contenaient l'écriture inclusive. Nous l'avons banni de la région. Je trouve qu'on serait bien à même de penser qu'il y a là autre chose et qu'on laisse à l'Académie française le soin de faire le point sur ces questions. Je crois qu'elles avancent vers la féminisation des professions, mais en tous les cas, rejettent l'écriture inclusive. Et je crois que ça serait bien, monsieur le maire, que vous engagiez comme chef de l'administration aussi à plutôt orienter les choses sur le concret des femmes plutôt que sur cet aspect.
Merci. Madame Isler-Béguin.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, je ne parle pas souvent de mon parti politique, mais là, je voudrais quand même le mentionner, parce que lorsque nous avons créé les Verts, dans notre ADN, la parité figurait. Pour nous, la parité, c'est quelque chose de naturel. Mais, et c'est comme ça, monsieur le maire, bon, je ne m'écoute pas, mais ça tourne, c'est comme ça, monsieur le maire, que une personne absolument sans expérience politique d'un statut d'élu se retrouve quand même à la vice-présidence du Parlement européen. Donc nous avons essayé de changer les choses et nous avons un tout petit peu réussi. Bon, je ne parlerai pas d'aujourd'hui. Mais par rapport à ce rapport, moi c'est avec beaucoup de cœur justement que je veux en parler. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut le regarder dans le détail et regardez le travail qui est fait, le plan d'action qui est mené, et même on voit, lorsqu'on compare les chiffres, qu'effectivement de 2016 à 2017 et 2015 à 2017, il y a une évolution positive dans certains domaines. Donc je crois que c'est quand même quelque chose à saluer. Même si, et là c'est des choses graves, on a encore 21,7% de femmes qui vivent dans la pauvreté. Ce n'est pas acceptable, mais je crois qu'on lutte contre. Un petit clin d'œil, il y a 8 agents qui ont pris des congés parentaux sur 22 naissances. Ben, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, j'en sais rien, mais c'est intéressant comme chiffre. Donc on peut les encourager. Mais est-ce que c'est à mettre en corrélation peut-être avec le travail à temps partiel? Il y a 27,6% de femmes qui travaillent à temps partiel pour 8,5% d'hommes. Donc effectivement, c'est tout dans la nuance. Hein. Et puis, je voulais aussi vous féliciter pour la campagne d'affiches, je crois, qui a été primée, Stop au sexisme, en mars 2017. Et là, c'est bien avant l'onde de choc que nous avons tous subie hein, sur les réseaux sociaux avec la révélation de l'abus sexuel de Harvey Weinstein. Donc là, cette affiche attirait déjà notre attention. Normalement, j'avais 3 minutes, monsieur le maire.
Non, 2 minutes.
Le groupe des écologistes
a demandé 2 minutes.
Comment ?
Le groupe des écologistes a demandé 2 minutes.
Ah bon, ben alors c'est bien dommage. Voilà. Donc effectivement, non, mais je voulais juste dire quand même, monsieur le maire, si vous permettez, ce qui m'a heurté, parce qu'il y a quelque chose qui m'a heurté dans ce rapport, c'est de retrouver cette question, la question des violences faites aux femmes dans le chapitre tranquillité publique. Parce que je sais très bien que ça pose des problèmes dans certains quartiers. J'habite dans le quartier Outre-Seille, je sais très bien les personnes, les femmes qui sont en difficulté, qui habitent là. Mais de grâce, c'est une question sociale que nous devons prendre à bras-le-corps. Et je sais que ça se fait, mais de grâce, la tranquillité, non. Et enfin, je tiens à remercier toutes ces femmes, parce que le rapport montre bien que le nombre d'associations et les agents qui travaillent pour lutter contre la violence des femmes, eh bien, c'est extraordinaire. Donc, je crois qu'il faut leur rendre hommage avec beaucoup de cœur, monsieur le maire.
Merci, merci madame. Madame Margot-Antoine Fabry.
Merci monsieur le maire. Tout d'abord, sur ce rapport, moi, je veux déjà remercier les services qui ont travaillé à réaliser, à compiler l'ensemble de ces données, aussi bien statistiques que concernant les dispositifs ou les politiques publiques que nous menons. J'ai cru entendre que l'absence de mixité, notamment dans la filière technique, ne choquait pas plus que ça. Moi, je suis désolée, je trouve, mais c'est comme le fait que des métiers soient encore aujourd'hui genrés. À mon sens, c'est un problème concernant l'égalité hommes-femmes. Je prends l'exemple dans la filière technique. Effectivement, on peut se dire, bah oui, aux espaces verts ou bien aux services techniques, il est vrai que naturellement, on va trouver comme explication qu'il faut être un homme parce qu'il faut avoir recours à la force physique. Et donc, une femme est potentiellement moins forte qu'un homme. Il me semble que pour améliorer la mixité dans ces filières techniques, il faut aussi qu'on améliore du coup les conditions de travail de ces agents et de ces agentes. Je m'explique. Je prends un exemple. Sur Metz-Plage, jusqu'à l'année dernière, les équipes des espaces verts délimitaient l'ensemble de l'espace avec des poteaux. Et ces poteaux, un agent venait taper dessus avec une énorme massue. Effectivement, moi, en tant que femme, j'aurais bien du mal à le faire. Depuis l'année dernière, la ville de Metz a investi dans une machine, ce qui permet du coup un gain de confort immédiat pour les deux agents qui font ce travail. Mais on peut se dire aussi qu'à plus long terme, on peut imaginer finalement que la question du physique ne soit plus un facteur déterminant dans le travail à réaliser, et que l'on soit un homme ou une femme, oui, on peut aussi délimiter le territoire de Metz-Plage, peu importe son sexe. Donc ça, c'était en tout cas ce point-là, il me semble important. Et puis, de toute façon, de manière plus générale, aucun attribut physique ne peut justifier le maintien de rapports inégaux entre les hommes et les femmes. Et contrairement à ce que j'ai entendu, on a beaucoup dit dans les interventions, oui, mais ça, c'est naturel. L'inégalité homme-femme, elle n'est pas naturelle. Alors certes, ce qui est naturel, c'est qu'une femme peut tomber enceinte et allaiter. D'accord. Mais est-ce que c'est naturel qu'une femme prenne plus facilement un congé lorsqu'elle sait que son enfant est malade, alors qu'un homme ne le fait pas? Non, c'est culturel tout ça. Et donc, comme c'est culturel, ça nous demande à nous, tous et toutes, oui, moi je suis inclusive, tous et toutes, d'avoir une attention sur nos comportements, sur nos propos également, et donc plus largement en tant que responsable politique, également sur nos politiques publiques. Et puis, j'en terminerai là, juste une mention.
Après, hein.
Ce n'est pas le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits des femmes. Je vous remercie.
Très bien. Madame Bory.
Oui, je suis d'accord avec ma collègue. C'est la journée des droits des femmes. Alors moi, d'abord, je me félicite qu'un tel rapport existe. Il n'existe que depuis 2014, il faut le signaler. Hein. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est déjà une chose. Alors, c'est vrai que dans ce rapport, on constate effectivement qu'il y a toujours des inégalités, hein, encore maintenant, et même dans la fonction publique, alors qu'on pourrait penser qu'avec les grilles de salaire, les grilles de salaire identiques, on pourrait penser qu'il n'y en a plus. Mais il y en a encore. Mais ce rapport montre aussi que nous n'en restons pas au constat. Hein, et qu'il y a une réelle volonté et un réel engagement de notre collectivité pour lutter contre ces inégalités. Alors, bien sûr, en tant qu'employeur, c'est bien normal, c'est la moindre des choses, parce que les inégalités professionnelles sont celles qui entravent le plus l'émancipation des femmes. Et c'est aussi dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, que les femmes subissent des violences. Hein. Aussi, moi, je dis l'annonce du gouvernement d'une loi en 2018 contre les violences sexistes, à mon sens, sera peu efficace si on n'agit pas sur les structures des inégalités hommes-femmes, sur les salaires, sur les conditions de travail, sur le temps de travail, etc. Donc, nous, c'est ce que nous essayons de faire. En fait, Monsieur Thiel, vous disiez qu'il fallait des places dans les crèches. Mais oui, mais c'est ce qu'on fait depuis deux ans maintenant. Effectivement, nous réservons des places dans les crèches, justement, pour les employés municipaux, effectivement, pour qu'ils puissent gérer correctement leur vie professionnelle et leur vie privée. Et puis, Et puis, sans vouloir relancer le débat sur les 4 jours et demi et sur les rythmes éducatifs, hein, on ne va pas le faire ce soir, il faut savoir que la réforme des rythmes a eu des conséquences très positives sur le travail des femmes, puisque nombreuses sont celles qui ont pu retrouver un travail à temps complet. Donc, vous voyez, quand on agit sur le rythme des enfants, eh bien, on agit aussi sur le travail des femmes. Et je crois que bon, je m'en tiendrai là pour ce soir. Et puis, je disais, lutter en tant qu'employeur contre ces inégalités, c'est important, mais également en agissant tous les jours aux côtés des associations et des partenaires institutionnels pour promouvoir le droit des femmes et l'égalité entre les sexes. Ces engagements existent dans tous les domaines. On a pu le voir dans le rapport de la vie courante. Et les actions que nous menons avec l'éducation nationale me semblent primordiales. Pourquoi elles me semblent primordiales? Parce qu'elles permettent de lutter dès le plus jeune âge contre les préjugés filles et garçons. Et je peux vous dire que des préjugés filles-garçons, il y en a. Je prends juste un exemple. Nous étions à la présentation d'une résidence d'artistes dans une école et c'était autour de la danse. Et un petit garçon a dit « c'est une danse pour les filles ou pour les garçons ?» Donc vous voyez, je crois qu'on a vraiment intérêt à s'y mettre très tôt. Et cette demande est donc intéressante, qu'elle permet de relever les clichés sexuels et amener les enfants justement à réfléchir sur ces questions. Voilà, alors pour terminer, je dirais l'égalité femmes-hommes est un impératif démocratique, une exigence sociétale, une nécessité économique. C'est un enjeu de société et il doit être l'affaire des hommes et des femmes. Je vous remercie.
Merci, merci madame. Écoutez, il n'y a pas de vote, c'est un travail, c'est un rapport sans vote. J'ai noté quand même que la proposition de M. Thiel, la cellule d'écoute interne de la ville à propos du harcèlement sexuel, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut travailler. Et voilà, on a tout écouté, je vous remercie de ce débat.